Chapitre 10. Marche lente. Mademoiselle Clock venait de faire construire un petit hangar formant abri au-dessus de la porte de la cuisine et pouvant contenir la provision de bois et une cage à poules. Il fallait bien tâcher d'améliorer cette maison, que cependant elle n'aimait guère, puisque les circonstances la contraignaient d'y faire un nouveau bail. Les frais d'un déménagement l'épouvantaient, car sa situation de fortune avait été aggravée par la conversion. Et, à prix égal, si elle eût pu éviter un odieux voisinage, elle n'eût trouvé qu'un simple appartement, ce qui, aux yeux du monde, qu'il faut ménager quand on a une jeune fille, eût été déchoir. Hélas, les amitiés s'égrenaient une à une autour d'elle. Les esprits tournaient du côté du parti victorieux. La haute intransigeance de Mademoiselle Clock effrayait les âmes faibles et, jusqu'au sein même de l'ouvroir, des défections inavouées étaient sensibles. Elle passait les clous à Mariette, pour qui c'était une joie que de suspendre sous l'appentis nouveau 1000 objets encombrants. Un bruit vint de la porte basse fermant le jardin sur la cour du plombier, et Mademoiselle Clock et sa bonne purent reconnaître, à travers le treillage, une longue femme qui s'avançait, l'œil vif et le teint animé, méconnaissable. C'était l'appelée. L'appelée venait chez Mademoiselle Clock avec autant d'aisance que si rien ne se fût passé entre elles, et bien qu'on ne l'eût plus revue depuis 3 mois. Elle se mit aussitôt à parler sur un ton gaillard. Elle émettait les idées les plus décousues. « Voulez-vous bien vous sauver ?» fit Mariette en brandissant le marteau qu'elle tenait à la main. Mademoiselle Clock, charitable, allait implorer pour la pauvresse. « Vous ne voyez pas, dit Mariette, qu'elle vient de chez Loupin qui fête son élection. Ils l'ont fait boire, elle est saoule comme une bourrique. »« Est-ce possible ? » soupira Mademoiselle Clock. « Encore bien heureux si ce n'est pas lui qui l'envoie. »« Oh !» Mais l'appelée, qui, effectivement, sentait le vin, reprit par cœur la louange du nouveau conseiller municipal qui lui avait si mal réussi lors de sa dernière visite. Elle la colportait partout depuis lors. Elle avait contribué au succès de Loupin et venait de toucher sa récompense. Mademoiselle Clock la poussa doucement jusqu'à une chaise, car elle titubait. « Croyez-vous, dit Mariette, que ça ne mérite pas la damnation ?» L'appelée, un peu calmée, après le premier flot de paroles, marmottait sur sa chaise. « Nous la tenons, il a bien dit, oui, nous la tenons de ce coup-là, la fraternité universelle. Fallait un homme, le voilà. » Le fait est qu'il est bâti et rablé. Mais qu'est-ce que je dis donc là, bonne Sainte Vierge, devant cette chère demoiselle qui est confite en dévotion? Vous m'avez mise à la porte, je le sais. C'est une faute, c'est pas diplomate. On me l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Ça ne fait rien, je ne suis pas rancunière, pourvu qu'on prenne soin de mon malheureux corps. Eh, pardi, c'est toujours les entrailles qui sont d'un chétif. Elles ne veulent rien garder, ça je peux le dire, Mademoiselle Clock. Figurez-vous un caniveau où on passerait le balai à toute heure. Ça n'empêche pas que si c'était un effet de votre bonté, j'aimerais bien que vous me donniez à boire. » La bonne et sa maîtresse levaient les mains et cherchaient un moyen de dégriser la misérable. Elle continuait, hypnotisée par celui qui venait de décréter, en buvant, la fraternité universelle. « Oh, il est fort celui-là! Il ira loin à présent que le voilà un pied dans l'étrier. Il y a de l'avenir pour les travailleurs. Faut pas faire la bégueule, entendez-vous bien, et quoique son beau-frère ne soit qu'un gâcheur de plâtre. » Mariette haussa les épaules en reprenant son marteau. « Bon, dit-elle, voilà le plâtrier à présent. Paraît qu'il était aussi de la réjouissance. C'est le frère à Madame Loupin. » « Qu'un plâtrier, oui. Vous ne pourrez toujours pas dire qu'il n'a pas les mains blanches. Eh bien, quand il viendra, cet honnête homme, vous dire qu'il trouve votre demoiselle à son goût ?» Les deux femmes se retournèrent d'un seul bond, comme si on avait profané devant elles le Saint-Sacrement. « Allez-vous-en, dit Mademoiselle Clock, allez-vous-en, je vous défends de prononcer le nom de ma nièce. » Elle dut arrêter du bras Mariette, qui allait lui casser la tête avec son marteau. Elles la relevèrent à elles deux et la conduisirent dehors. L'appelée avait peut-être eu peur. Elle semblait dégrisée tout à coup. Elle s'éloigna en demandant pardon. Elle se retourna plusieurs fois dans la petite allée et murmura des excuses si humbles que Mademoiselle Clock regretta sa violence et faillit rappeler la vieille. Mais elle craignit que Mariette ne lui fît un mauvais sort. Toutes les deux continuèrent tristement en plantant leurs clous et, sans tenir compte des divagations de l'appelé, à déplorer l'élection scandaleuse de Lupin. Il avait eu 150 voix de majorité sur son adversaire, un ancien maire de Tours sous l'Empire, et qui se présentait avec l'étiquette de conservateur. « C'est le gâchis !» dit Mariette. « Dieu veut nous éprouver !» dit Mademoiselle Clock. Mariette hésita, tourna sa langue. Enfin, elle lâcha. « Mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a ?»« Ah, tant pis, mademoiselle, faut que je vous dise. » « Mais dites donc !»« Eh bien, c'est toujours rapport à Lupin. Faut vous méfier de cet homme-là, il vous ferait du mal. Voulez-vous savoir ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il attendait vos compliments pour son élection avant que le soleil soit couché. » « Mes compliments pour son élection ?» s'écria Mademoiselle Clock. « Mais il est fou !»« Voilà ce qu'il a dit. Mademoiselle sait bien que c'est aujourd'hui qu'elle va lui payer son terme. Faudra bien que Mademoiselle lui cause. » Mademoiselle Clock haussa les épaules en soupirant. « Et ce n'est pas tout, ça, mademoiselle. C'est que si vous ne faites pas ce qu'il a dit, cet homme-là est capable de tout. Quand je me mets à ma fenêtre, à la fraîcheur, écoutez bien ce qui est sorti de sa bouche. Et que je regarde autour de moi, je n'aurai-t-il qu'un œil, je veux que tous les gens que je vois soient des amis. Voilà ses paroles exactes. Ah, ça, mais Mariette, qu'est-ce qui vous avertit si bien de ce qui se passe chez Lupin ? » Mariette leva une épaule sans répondre. « Je parie que vous avez encore été bavardée. » La vieille bonne cognait sur un clou à tour de bras. « Mais dites-le-moi, avouez-le au moins, vous avez encore été bavardée. » Mariette bégaya sans regarder sa maîtresse et en lui prenant un clou dans la main. « Des fois, bien sûr que je leur ai parlé, comme ça, en passant, par hasard. » « Mademoiselle ne se rend pas compte de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. » On sonna à la porte de la rue de la Bourde, ce qui évita à Mariette un abattage. « Allez donc ouvrir, tenez, ce doit être Geneviève qui revient avec des demoiselles au houblon. » Mais, au lieu de Geneviève et des demoiselles au houblon, on vit venir par la petite allée sablée M. l'abbé Moisan, chapelain de Saint-Martin. Il tenait d'une main son parapluie et son bréviaire entrouvert d'un doigt marquant la page, et de l'autre son chapeau, car il aimait marcher tête nue. De chaque côté de sa bonne figure placide, on voyait trembloter ses bajoux. « Bonjour, mademoiselle » lança-t-il de loin, d'une voix grasse, où l'on croyait toujours entendre comme la résonance d'une voûte d'église, et qui exerçait une mystérieuse onction sur les fidèles. « Monsieur le chanoine !» prononça Mademoiselle Clock avec une fine intonation soulignant le titre honorifique. Il étendit la main en fermant les yeux comme pour signifier « N'insistez pas !» Monsieur le chapelain de Saint-Martin avait été nommé chanoine honoraire le jour même où les démolisseurs avaient attaqué la maison qu'il occupait à côté de la chapelle provisoire. On savait son goût prédominant pour le repos et pour une calme demeure où l'attachaient de longues habitudes. Aussi cette distinction, d'ailleurs bien due à ses mérites, était-elle venue à propos pour arrêter la grimace que l'abbé Moisan commençait à faire au chalet républicain qui le dérangeait. Elle l'avait soudain rendu raisonnable, et lui, qui souriait si complaisamment jusqu'ici aux révoltes de Mademoiselle Clock, il venait aujourd'hui, à l'instigation, il est vrai, des grenailles Moncontour, lui apporter des paroles de conciliation et de paix. Il s'agissait non seulement d'essayer de faire revenir la tante de Geneviève sur la rupture dont le bruit, répandu, avait vivement blessé cette famille, mais encore d'éviter les manifestations hostiles que préparaient à grand bruit les quelques basiliciens pour la fête de Saint-Martin qui tombe le 11 novembre. Dans le fond, un attrait secret motivait sa visite, comme toutes celles qu'il faisait à sa pénitente, et c'était l'espoir d'une partie de piquet. Ceci, il ne l'avouait pas. Une pudeur l'empêchait de demander à jouer. Il épiait une occasion et, en la saisissant aux cheveux, découvrait maladroitement sa rouerie. Il parla d'abord de Geneviève. Cette pieuse enfant, partout où elle va, est un objet d'édification. On dit qu'elle unit les qualités d'une maîtresse de maison aux plus précieuses vertus morales. Quel dommage que cette union! Je ne regrette rien, déclara vivement Mademoiselle Cloque. Si vous ne regrettez rien, il n'en est pas de même pour l'autre partie, mademoiselle. Je vous prie de le croire. Monsieur le comte et madame la comtesse, pour ne parler que de la famille, ont été bien durement éprouvés par votre détermination. Je sais. Monsieur Daubreby, qui fait exprès, on le dirait ma foi, de fréquenter plus que jamais ces gens-là, depuis que je ne les vois plus, s'est chargé de me rapporter leurs insistances. Ils ont été vexés de voir une malheureuse comme moi, abandonnée de tous, faire fi de leur gracieuseté. Ce n'est pas à nous qu'ils tiennent aujourd'hui, c'est à repriser la croix de leur amour-propre. Peut-être aimeraient-ils un retour de ma part pour se donner l'agrément de le repousser. Je reconnais que tout ce qui était humainement possible pour me faire revenir sur ma décision, ils l'ont fait, sauf une chose, c'est de changer leur opinion et leur manière de vivre. Le nouveau chanoine éprouvait de la timidité à défendre l'opinion des grenailles Moncontour, à laquelle il avait fait grise mine jusqu'à présent. « Leur manière de vivre, dit-il, leur manière de vivre peut se modifier. » Mademoiselle Cloque le regarda d'un air incrédule. « Sans doute, continua l'abbé, ne disait-on pas que cette famille alliée, la famille Niorcan, pour tout dire, était grandement responsable du ton qui règne chez eux ?»« Eh bien, cette famille, elle n'est pas morte, que je sache. »« Non, mais on parle. Vous ne l'avez donc pas entendu dire ? On parle d'un divorce. » La sainte fille sauta de son fauteuil. « Un divorce ? » s'écria-t-elle. « Et c'est ce scandale que vous venez me proposer pour m'attendrir ? Monsieur l'abbé, voyons, vous n'y pensez pas ? Comment ? C'est vous qui me dites cela ?»« Mais, fit-elle en voyant entrer Monsieur Daubreby, qui venait à son heure habituelle, mais un méchant parpaillot comme le marquis ne dirait pas pis. Cependant, mademoiselle, quand il s'agit d'expulser la brebis... »« Galeuse ! » acheva le marquis en refermant la porte. « Mais d'abord, il n'y a plus de brebis galeuses de nos jours, pas plus qu'il n'y a de lépreux, et précisément pour la bonne raison que l'on n'expulse plus. On soigne, on traite, on s'accommode avec le mal, il vous livre ses secrets et on le guérit. On n'arrache plus les dents, on les remet à neuf. Si, au lieu de révoquer l'édit de Nantes, cette vieille bête de Louis... » Il s'arrêta et sourit en voyant toute la personne de sa vieille amie s'enfler déjà comme une soupe au lait. Tout beau, dit-il avec un geste apaisant de la main. J'ai surpris le vilain mot de divorce en entr'ouvrant la porte. Laissez-moi vous rassurer, ce divorce n'aura pas lieu. Mais enfin, dit Mademoiselle Cloque, il aura lieu, il n'aura pas lieu. Il y a donc un motif, tout au moins. Curieuse, fit le marquis, et avec une affectation de plaisanterie. « Puisque Monsieur le chanoine a tant fait que de commencer ce chapitre, nous aurons l'honneur de l'entendre nous en exposer lui-même les péripéties. » L'abbé Moisan se récria. « À vous, monsieur le marquis, à vous !» Mademoiselle Cloque fit remarquer. « Est-il bien nécessaire d'entrer dans des détails ?»« Oui, dit le marquis, car autrement, ma bonne amie, vous ne dormiriez pas de cette nuit en vous épuisant à les imaginer. » Samedi dernier, la belle Rachel... Qui ça, la belle Rachel? Mais la jeune madame de Grenaille-Moncontour, la juive. Je vois décidément qu'il faut vous mettre les points sur les i. La belle Rachel, dis-je, suivant une chasse à courre dans la forêt d'Azay, se perdit... Corps et bien, lâcha l'abbé. Ce n'est pas encore le cas de le dire, monsieur l'abbé. Vous allez plus vite que les piqueurs. Rachel perdue, on la cherche, on l'appelle. C'est en vain. Elle ne vient pas au déjeuner servi sur l'herbe, au lieu dit la croix du rond. On s'inquiète, on songe à l'étang qu'on grossit les pluies dernières. On y court, on reste un quart d'heure devant cette eau saumâtre et profonde qui recouvre peut-être Rachel sous sa tranquillité perfide. Il fallait plonger au lieu de perdre du temps, observa Mademoiselle Cloque. Mais on venait de déjeuner, ma chère amie. Et son mari ? Est-ce que ce n'était pas son devoir de retrouver sa femme avant de déjeuner ? Justement, son mari n'assistait pas à cette chasse, ayant été retenu, le matin, par une de ces migraines inopinées auxquelles il est sujet. Bref, au lieu de Cours-le-Cerf, on passa la journée à la recherche de la malheureuse jeune femme. Vers 4 heures, la comtesse, suivie du capitaine de Champchevrette, atteignit, épuisée, une ferme de maigre apparence, nommée la Ménardière, près de la lisière de la forêt. « Entrons là, dit-elle au capitaine, nous y prendrons un bol de lait. » L'endroit est clos de haies vives, les barrières sont fermées. « Il n'y a personne là-dedans, fait monsieur de Champchevrette. » Il met toutefois pied à terre, enjambe une haie et court à la découverte à travers d'interminables plants de choux. Aucun bruit, pas un chien, pas une âme. Il heurte la porte à claire-voix de la cour. Il fait fuir 3 poules effrayées et remarque, entre la clôture de bois barbelé d'une étable et le pas humide de purin, la rondelle rose d'un groin de porc. C'est tout. Il fait le tour de la maison, penché sur chaque fenêtre, les 2 mains en auvent sur les tempes, l'œil écarquillé contre les vitres. Tout à coup, le voilà fixé à l'une d'elles, avec la solidité de ces bougeoirs à pliques que vous connaissez et que l'on fiche contre les glaces à l'aide d'une sorte de petite ventouse en caoutchouc. Qu'a-t-il vu ? C'est une laiterie. Il y a des pintes de grès, des faisselles à fromage, une baratte à battre le beurre et, contre un coffre de bois, Rachel de Grenaille Boncontour, née Niorcan, se faisant hausser à la portée de la bouche un grand seau de fer blanc à demi plein du lait qu'on vient d'y traire. Le tableau, paraît-il, était exquis. Un demi-jour venait de l'étable voisine où l'on apercevait la croupe de plusieurs vaches. Et cette jeune femme, dont toute la personne est une volupté, comme chacun sait, la taille cambrée, la gorge tendue sous son corsage d'Amazone, arc-boutée à 2 mains en arrière contre le coffre, buvait avec ivresse une véritable rivière de lait. « C'est bien innocent !» dit Mademoiselle Cloque. C'est la réflexion que se fait le capitaine de Champchevrette, à qui d'ailleurs il suffit d'avoir reconnu Rachel et de l'avoir vue vivante pour n'insister pas davantage. Ils ne songent pas à s'étonner qu'elle ait pu leur fausser compagnie depuis le matin pour venir ici se gorger de lait. Il court au-devant de Madame la Comtesse. Il lui fait signe de loin. « Accourez, madame, accourez !» Ses grands gestes d'allégresse tranquillisent déjà la belle-mère. L'air mystérieux du capitaine dès qu'elle approche et ses recommandations de « silence, pas de bruit » la préparent à une surprise agréable. Enfin, c'est en souriant que la comtesse, relevant haut sa jupe, de la main qui tient la cravache, se plaque à la petite fenêtre de la laiterie. « Cognez-vous même contre les carreaux !» dit tout bas le capitaine, « mais ne la faites pas avaler de travers !» Ce fut ce pauvre Champchevrette qui faillit perdre la respiration. La comtesse se retourne vers lui d'un air féroce, elle brandit sa cravache et menace de lui en cingler la figure. « Ah, c'est comme cela que vous vous payez ma tête ?» Le capitaine, par le coup, se relève ahuri, se remet à la fenêtre pour avoir avant tout le mot de l'énigme. Il regarde, il veut pousser une exclamation, elle est étouffée dans sa gorge. « Dois-je continuer ?» Monsieur l'abbé Moisan faisait une bouche en cul de poule, mais sa physionomie, si grasse, exprimait une indulgence absolue. Mademoiselle Cloque avait soudain baissé les yeux afin de ne dire ni oui ni non. Le marquis se répondit à lui-même. « Vous le voulez ? Eh bien, voici la scène dont furent témoins le capitaine de Champchevrette conjointement avec Madame la Comtesse de Grenaille-Montcontour par la fenêtre de la laiterie. Toujours adossée au coffre de bois, la belle Rachel, qui venait d'absorber une nouvelle lampée, fermait les yeux et penchait la tête sur le côté pour la mettre au niveau d'un petit jeune homme. « D'un petit jeune homme ?» s'exclama Mademoiselle Cloque. D'un petit jeune homme qui regardait avec convoitise la raie blanche demeurée entre les lèvres de la gourmande et qui, s'étant approché, l'épongea soigneusement du fin bout de la langue. « Assez !» s'écria Mademoiselle Cloque. « Je ne veux pas entendre des abominations !»« C'est fini !» dit le marquis. « Le nom seulement du petit... »« Oh, oh !» interrompit Mademoiselle Cloque. « Peu importe, quand on s'entoure comme font les Niorcans, d'une séquelle de gamins élevés sans foi ni loi, d'un tas de blancs-becs qui, à 15 ans, sont déjà à la bourse, il ne faut pas s'étonner. » Mais, ma bonne amie, celui-ci avait encore sur la tête la casquette au velours violet des révérends pères jésuites. C'est le fils d'un notaire d'Azé que M. Niorcan fait sortir les jours de congé. On dit qu'il est joli comme un amour, la comtesse elle-même raffolée de lui. Même, il paraît... Marquis, taisez-vous, je vous ai averti que je ne voulais plus rien apprendre. Le marquis tenait à son trait final. Il en trouva un autre. Il paraît que ce n'est pas un mauvais élève. Il fait partie de la congrégation de la Sainte Vierge. On lui voyait trois ou quatre croix de mérite qui balivotaient sur sa veste. « Oh !» dit Mademoiselle Cloque, « j'étais bien sûre que votre histoire finirait par tourner contre la religion. Vous n'en faites jamais d'autre. » « Vos prières, mademoiselle, dit l'abbé Moisan avec un geste conciliant, finiront par attirer l'attention du bon Dieu sur monsieur le marquis et il le touchera de sa grâce. Tout s'arrange finalement. Ne disiez-vous pas, monsieur le marquis, que le scandale d'un divorce qu'on avait hélas redouté serait épargné à nos fidèles populations tourangelles ?»« Mais, dit le marquis, il n'est question de divorce que parmi les gens qui s'amusent de ces historiettes. » Dans la famille de Grenaille, il ne se passera rien du tout. J'espère qu'on a pu éviter au mari, dit Mademoiselle Cloque, la douleur d'apprendre. On n'a rien évité. Le tort de la comtesse a été de crier trop fort les premiers jours pour une malheureuse peccadille. Une raie de lait. Je vous demande un peu, une raie de lait. Et sur laquelle le coupable lui-même avait pris soin de passer l'éponge. Dit le chanoine honoraire qui ne voyait que le plaisir de faire un mot. Le marquis sourit. Mademoiselle Cloque s'indigna. « Comment, c'est vous, monsieur l'abbé, qui vous mettez à plaisanter aussi sur des choses qui intéressent l'honneur des familles? Vous n'êtes pas ému par ces déplorables mœurs ?»« En bon chrétien, dit-il, je suis plus touché par le pardon que par la faute, et il convient d'oublier la malheureuse pécheresse en faveur du marquis qui est absous. » Peu. Dit le marquis. Le mari n'était guère en position de faire le geste de l'absolution. On sut que sa migraine n'était que feinte et qu'il avait passé la journée en compagnie d'une demoiselle de l'Alcazar. « Mais c'est abominable !» dit Mademoiselle Cloque. « Cette famille-là est pourrie !» L'eussiez-vous mieux aimé ensanglanter d'un meurtre ? Il n'est rien de tel que l'humilité de conscience, à savoir... l'assurance que l'on ne vaut guère soi-même pour vous porter à accueillir avec politesse les méfaits d'autrui. N'est-ce pas votre avis, monsieur le chanoine ? Nous sommes tous pécheurs, dit l'abbé en s'inclinant. Mais avec ces systèmes-là, s'écria Mademoiselle Cloque, vous encouragez tous les vices. Nous sommes pécheurs, je ne dis pas non, encore faudrait-il s'entendre là-dessus, car il y a des degrés dans le mal. Mais en tout cas, nous devons tendre à ne pas l'être. La perfection engendre l'orgueil qui est bien détestable en société. Je ne dis pas cela à votre intention, ma bonne amie, car je vous sais cousu de petits défauts. Monsieur, votre directeur qui est là, ne me contredira pas. Monsieur l'abbé Moisan leva deux doigts en prenant une attitude de haute discrétion. Et puis, continua le marquis, si vous vouliez vous donner la peine d'y regarder d'un peu près et de remonter aux origines, vous verriez que ce goût de vertu farouche n'est nullement chrétien. Jésus n'a fait que prêcher la douceur et l'indulgence. Pour le cas particulier de la femme adultère, je n'ai pas besoin de vous rappeler ses paroles mémorables. C'est M. Niorcan, le père de Rachel, qui les a citées, paraît-il, à Madame la comtesse de Grenaille-Montcontour, non sans un manque de tact qui est familier à cet homme d'affaires de génie, mais dont l'à-propos me ravit. N'est-il pas piquant, en effet, de voir une tradition si intelligente de vie sociale renouée à 18 siècles d'intervalle par un homme de sang sémite comme l'était Jésus, et ceci contre une société qui se pique d'être chrétienne et qui ne rêve en toute chose que la guerre et que le sang. Marquis, en vérité, vous vous égarez. Songez au moins que vous êtes en présence d'un ministre de Jésus-Christ. Je sais, dit le prêtre, qu'il y a malheureusement beaucoup d'abus. Comme ce serait drôle, reprit le marquis, de voir les Juifs nous ramener au véritable christianisme. Il est clair que vous voulez rire, dit Mademoiselle Cloque. J'aime mieux cela. Je ne ris pas, je dis seulement que notre religion et notre morale sont formées à l'idéal de cette vieille Rome, exclusive et cruelle, où j'eusse autant souffert d'être citoyen que d'être condamné aux galères. L'essence même du christianisme n'était-ce pas une certaine douceur d'amour, un arôme pénétrant et charmeur, un parfum oriental qui se heurta sans le pénétrer au cerveau rationaliste des latins, cette vertu subtile qui était propre à répandre tant de bonheur par le monde, ils crurent l'analyser et en conserver l'efficacité en la réduisant en formules écrites qu'ils codifièrent selon leur manie et auxquelles ils donnèrent enfin force de loi, ce qui était une de leurs plus grandes satisfactions. La hache et les baguettes étaient là désormais et ne faillirent plus, à aucune époque et sous des formes variées, à évoquer que quelqu'un manquât du bienfait nommé « religion chrétienne » par les docteurs et « amour » tout simplement par l'homme tendre qu'il avait le premier répandu. Mademoiselle Clock faisait des efforts surhumains pour ne pas bondir et, sous le bord de la robe noire, sa pantoufle qui avait quitté le talon frémissait et tremblait. Monsieur l'abbé Moisan avait repris ses lèvres en cul de poule qui voulait dire « que savons-nous de tout cela ?» Et au fond, Dieu est bon et tout est mieux que l'on ne dit. Il trouvait toujours de l'à-propos aux paroles de chacun et il opinait tour à tour du côté de sa pénitente et du côté du marquis. Il pensait à part lui qu'une bonne partie de piquet les eut mis tous d'accord. Mademoiselle Clock demanda au marquis à quel arôme oriental étaient, selon lui, parfumés les tripotages exécutés autour de l'affaire de la basilique. « Ce n'est pas le moment, dit le marquis, de juger la question de la basilique. Elle est trop brûlante. »« On n'y voit que du feu, » jeta le chanoine. « Comme vous dites, cher monsieur l'abbé, quant au tripotage, laissez-moi vous dire que je ne vois dans tout cela pas l'ombre d'une opération qui ne soit licite. »« Licite ?» s'écria mademoiselle Clock. « Licite ? C'est admirable en vérité. Ils ont des mots à eux pour justifier leur morale de boursicotier, de tripatouilleur. Pendant que vous y êtes, dites-moi donc s'il y a un terme dans cet argot pour exprimer la filouterie et le vol commis au préjudice d'une des grandes idées qui gouvernent le monde, telle par exemple que la suprématie de la religion catholique. Ah, dit l'abbé, voilà un point que l'on nomme spécieux. Je me place, dit le marquis, au point de vue d'une morale. Il n'y a pas deux morales, monsieur le marquis, il y en a une seule et unique. L'abbé, pour prévenir tout mécontentement, hasarda. Toutefois, mieux vaut-il deux morales que pas du tout. Ce n'était pas habile. Mademoiselle Clock frappa sur la table. C'est la même chose, dit-elle. D'une façon comme de l'autre, vous n'aboutissez qu'à l'anarchie. Sans s'émouvoir, le marquis poursuivait sa pensée. Si vous eussiez vu, dit-il, la figure de M. Niorcan, lorsqu'il a pris le double événement que j'ai eu l'avantage de vous exposer, il ne s'est point emporté, il n'a même pas manifesté de surprise, contrairement à M. le comte de Grenaille, qui voulait s'arracher les cheveux et qui néanmoins a fort bien dîné. M. Niorcan a pris les deux coupables et il aura tenu un petit discours si bien fait que chacun des époux fut convaincu qu'il avait commis une imbécilité. Ils ne se sont point jetés dans les bras l'un de l'autre en larmoyant, se traitant de misérables. Ils se sont regardés dans les yeux et ont convenu qu'ils étaient des nigauds de s'être ainsi laissés prendre. « Puisque nous sommes si maladroits séparément, a dit l'un d'eux en souriant, ne nous quittons plus. » C'est ce qui fut décidé. « Le joli monde !» s'écria mademoiselle Clock. « Vos deux époux ne méritaient pas mieux, en effet, que l'éloquence opportuniste de votre Niorcan, puisqu'ils n'avaient fait que jouer chacun de leur côté. Car on en est là !» On joue, on plaisante, on rit, même en adultère. Ça perd les poupettes, lança-t-elle en agitant le pied si fort que sa pantoufle s'en alla. J'aimerais mieux encore une belle passion, une grande flambée où l'on exposa ses joues, dût-elle être suivie d'un cataclysme foudroyant. Oh, oh, dit l'abbé, comment vous y allez, mademoiselle Clock? Le marquis s'était baissé, ramassé la pantoufle. Il la présenta galamment à sa vieille adversaire. En se relevant, il aperçut par la fenêtre le mouchoir blanc de sa femme et se retira. Mademoiselle Clock haussa les épaules dès qu'il fut sorti. « Ça lui va bien, dit-elle, de parler de l'aisance des mœurs. Il a été esclave toute sa vie. Avant la démence de sa femme, il en était amoureux fou. Il a mangé une fortune à payer ses caprices politiques. Il s'est battu trois fois par jalousie et il a failli mourir de chagrin quand elle a perdu le peu d'esprit qu'elle avait. Et depuis, vous voyez avec quelle pieuse fidélité il lui rend un culte qu'on peut comparer à celui que nous avons pour les morts, mais il nie la religion et le sacrifice. C'est une espèce de revanche que prennent certaines gens contre l'infortune, dit l'abbé Moisan. Et il insista en prononçant à plusieurs reprises le mot « revanche ». Enfin, mademoiselle Cloque comprit. « Sapristi, dit-elle, et moi qui oubliais que je vous en dois une au piquet ?» Le chanoine se frappa les genoux. Il emplit la chambre de son gros rire. « Eh bien, ma parole, ce n'est pas de refus. »« Avouez que vous l'attendiez, » dit mademoiselle Cloque. « Il ne faudrait pas vous imaginer que je ne prenne pas plaisir à la conversation des hommes intelligents. » Et comme il s'installait à la petite table de jeu, « Cependant, notre Seigneur a dit, heureux les pauvres d'esprit. » Mais mademoiselle Cloque s'étonna que Geneviève ne fût pas rentrée. « Les demoiselles Houblon m'avaient juré de la ramener à 4 heures. Il en est 5 et bien sonné. » L'abbé la rassura. Le nom de Geneviève lui rappelait le but premier de sa visite. Il pensa que la conversation du marquis était peu favorable à la poursuite d'un tel sujet, car elle avait aigri mademoiselle Cloque. Décidément, il était bien difficile de contenter tout le monde. À part lui, pour le moment, sa partie de piquet lui suffisait. Il s'y absorba. Mais 5h30 sonnèrent sans que la jeune fille fût de retour. La vieille tante avait des distractions qui rendaient le jeu difficile. Elle prononça tout haut, malgré elle. « Où est-elle ?»« La voici, » dit l'abbé en ramassant une carte qui était tombée. « Je parle de ma nièce !» dit mademoiselle Cloque. La chère enfant, fit M. Moisan, que l'inquiétude n'atteignait point. Voyons décidément, qu'en faisons-nous? Il faut pourtant la marier. Il vaut mieux attendre que de faire cela à la légère. Sans doute, sans doute. Il est vrai que si je venais à lui manquer, la pauvre petite, je me demande ce qu'elle deviendrait. On ne sait qui vit, qui meurt. L'abbé était très embarrassé de placer ce qu'on l'avait évidemment chargé de dire, et il voulait malgré tout s'en soulager par acquis de conscience. Il étendit la main au-dessus du petit tapis vert, jusque sur le bras de sa partenaire, comme pour prévenir un mouvement de révolte, et lui glissa sans la regarder. « Si, à Dieu ne plaise, il y avait jamais un malheur, mademoiselle Cloque, soyez assurée que votre nièce trouverait une seconde mère en la personne de madame la comtesse. Pas plus tard qu'hier, madame la comtesse me disait. » Mademoiselle Cloque l'interrompit d'un regard droit qui alla chercher bon gré mal gré ses yeux fuyants. Il élut une si froide décision qu'il se repentit d'avoir accompli sa mission. Et la vieille fille continuait à le dévisager, luttant contre son respect inné, absolu, du prêtre qui la retenait de mépriser cette basse servilité vis-à-vis d'une maison puissante. « Monsieur l'abbé, dit-elle, je vous prie d'une fois pour toutes de ne plus me reparler de ce sujet. Madame la comtesse doit bien se douter que je n'ai pas pris sous mon bonnet la résolution de rompre avec sa famille, mais que ma nièce a été consultée, et elle a été de mon avis. Nous n'en changerons ni l'une ni l'autre. » Elle surprit un léger étonnement sur la figure du chanoine. « Oh, dit-elle, vous pensez que Geneviève a eu du chagrin de cette rupture un peu brusque ? C'était tout naturel. Cette union flattait son imagination. Mais c'est une fille intelligente et courageuse, et la raison a eu vite fait de prendre le dessus. Dieu merci, elle est bien guérie. » On la trouve palote, dit le prêtre en faisant une moue interrogative. La pauvre enfant aurait besoin de distraction qu'une bonne femme comme moi n'est guère en mesure de lui procurer. Elle sort tous les jours avec les demoiselles Houblon. Elle n'est jamais rentrée si tard. « Tenez, dit l'abbé en prêtant l'oreille, je suis sûr que la voilà. » « Non, c'est un fiacre qui s'arrête, elle ne revient jamais en voiture. » « Faisons-nous la belle ? » demanda-t-il en battant les cartes. Mais mademoiselle Cloque s'était levée et regardait à la fenêtre de la rue. « C'est curieux, dit-elle, il y a un fiacre à la porte de la maison. Avez-vous entendu sonner, monsieur l'abbé ?» Sans attendre sa réponse, elle se précipitait dans la cage de l'escalier. Elle entendit en bas une porte se fermer, une autre s'ouvrir, puis des chuchotements. Elle descendit quelques marches, elle aperçut le bonnet blanc de Mariette qui passait rapidement de la salle à manger à la cuisine. Mariette !» La bonne referma promptement la porte de la cuisine, comme si elle n'avait rien entendu. Alors mademoiselle Clock, tout en dégringolant l'escalier et la voix pleine d'angoisse, cria « Mariette ! Mariette !» Mariette, la sentant si près, se hâta de monter au-devant d'elle, à grandes enjambées et sans rien dire. « Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Il n'y a rien du tout, mademoiselle. De quoi donc vous vous tourmentez ?»«
Vous mentez. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et avec une brusquerie et une agilité extraordinaire, mademoiselle Clock bouscula sa servante et fut en bas avant que celle-ci eût eu le temps de formuler une réflexion. Elle ouvrit la porte de la salle à manger et vit le dos des quatre demoiselles Houblon tourné du côté du vieux fauteuil de velours rouge qui garnissait le coin à gauche de la cheminée. En entendant la tante de Geneviève, toutes les quatre firent en même temps « ce n'est rien du tout ». L'une d'elles tenait à la main un flacon d'eau de mélisse des Carmes, une autre un verre d'eau, et elle remuait rapidement le sucre en l'approchant des lèvres de Geneviève. Mademoiselle Clock avait fendu leur groupe et était venue tomber aux pieds de sa nièce, qu'elle pensait trouver morte. Geneviève lui sourit aussitôt au milieu de sa figure décomposée et répéta comme les autres « ce n'est rien du tout ». Mais enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Au lieu de répondre directement, l'aînée des demoiselles Houblon dit « Oh, nous savions bien que ce ne serait rien et nous ne voulions vous prévenir que lorsque Geneviève irait tout à fait mieux. Je parie que vous ne nous avez pas entendu sonner. »«
Non, mais j'ai entendu la voiture. »
Mademoiselle Houblon se pinça les lèvres. « Ah, on avait entendu la voiture. » Plus moyen de cacher à la tante que Geneviève avait été assez souffrante pour ne pas revenir à pied. « Enfin, me direz-vous ce qu'elle a eu ?»«
Une faiblesse, cela peut arriver à tout le monde. Elle était très gaie. Nous entrons chez Madame Pigeonneau, on cause de la pluie et du beau temps. Ah, vous savez, entre parenthèses, que Léopoldine Archambault est revenue. Nous l'avons vue passer, justement, avec Mesdemoiselles Jouffroy. Quand voilà tout à coup cette pauvre Geneviève qui s'assied précipitamment, qui pâlit à propos de rien et qui perd connaissance. Un bon petit évanouissement. »
Mais enfin, qu'avait-elle vu ? Qu'avait-on dit devant elle ?
Des rien, mademoiselle, ce que l'on dit tous les jours. Ce n'est pas la vue de Léopoldine.
Est-ce qu'on sait jamais avec ces têtes-là ?
Oh, elle avait une de ces toilettes, dit en levant les yeux une des demoiselles Houblon.
On se demande, ajouta une autre, ce qu'elle revient faire à Tours.
Ce n'est pas un petit trajet que le voyage de Grenoble.
Geneviève reprenait peu à peu ses forces. Elle se souleva dans le fauteuil et, comme sa tante l'embrassait,
« Oh, ça va mieux !» dit-elle.
Et elle se mit debout. Mesdemoiselles Houblon se retirèrent en promettant de venir prendre des nouvelles dans la soirée.
« Pourquoi vous dérangez encore ?»«
Papa va présider la réunion de ces messieurs de la confrérie du tiers-ordre de Saint-François. » Il s'agit de s'entendre sur la conduite à tenir pour la fête de Saint-Martin qui approche. Vous savez qu'on s'attend à du grabuge ? Aujourd'hui, l'important est de se compter afin de connaître exactement ses forces pour le jour de la lutte suprême.
Ah, monsieur votre père a bien du mérite, car la cause que nous soutenons avec lui est ingrate. Mesdemoiselles, vous avez lieu d'être fière de lui appartenir.
Remontée à sa chambre, mademoiselle Clock fut toute confuse d'avoir oublié le chanoine durant cette alerte.
« Monsieur l'abbé, que je vous fasse mes excuses, j'ai été retenue en bas. »
Mais l'abbé n'avait pas trouvé le temps long. Il faisait des réussites. Mademoiselle Clock, dans sa précipitation, avait laissé ouverte la fenêtre de la rue de la Bourde. Il n'avait pas osé la fermer. Le vent d'octobre qui soufflait fort dérangeait son jeu. Et il maintenait ses petits paquets de cartes à l'aide des pierres des basiliques qu'il avait prises sur la cheminée.
« Comment ? » s'écria mademoiselle Clock. « Mais ce sont des reliques de Saint-Martin »
« Est-ce possible ? » dit l'abbé. « Elles constituent d'excellents presse-papiers. » Et il les remit lui-même en place, non sans respect, mais avec une certaine familiarité d'homme habitué au toucher des objets sacrés. Il se leva pour prendre congé, il chatouilla du doigt le menton de Geneviève.
« Elle est palote, elle est palote !» dit-il en regardant la tante d'un air entendu. On envoya chercher le docteur Cornet, médecin de la maison. Puis on mit Geneviève au lit dès avant le dîner, non qu'elle fût malade, mais à cause de la fatigue qui résultait de son indisposition. La tante préférait d'ailleurs que la jeune fille, déjà ébranlée, ne fût pas témoin de l'entretien qu'elle devait avoir avec Lupin, durant lequel il était possible que l'on échangeât des paroles vives. Elle avait coutume d'aller elle-même, tous les 3 mois, payer son loyer entre les mains du propriétaire. Elle tenait à l'honneur de s'y rendre aujourd'hui plus que jamais, puisque celui-ci l'avait grossièrement provoqué. Le docteur Cornet arriva comme la nuit tombée. C'était un petit homme aux cheveux gris, épais, mal peigné, plus mal mis encore, qui avait une figure hideuse, une voix de femme et des manières brusques. Quoiqu'il fût laid et bourru, il était agréable. Il pratiquait l'homéopathie. Par une étrange contradiction avec la tournure de son esprit, vouée au respect des plus vieilles traditions, Mademoiselle Cloque allait en médecine aux excentricités. Elle avait recours aux médecins homéopathes et encore, pour son usage personnel, trahissait-elle en secret le docteur Cornet en faveur d'une certaine médecine italienne appelée électro-homéopathie et qui était répandue dans le clergé. On faisait venir les remèdes de Bologne en petits tubes remplis de granules blancs ou en flacons de verre colorés contenant un liquide étiqueté « électricité blanche, rouge, jaune et bleu ». Des brochures envoyées franco donnaient la manière de se traiter soi-même. Le docteur Cornet tâta le pouls de Geneviève, couché tristement sous ses rideaux de reps gris passés. Une veilleuse répandait dans la chambre sa pauvre lueur. Il voulut qu'on le remplaçât par une bonne lampe, au moins jusqu'à 10 heures du soir. « Qu'est-ce que c'est que ce lumignon-là » dit-il. « Il faut de la lumière à cette jeunesse !» Quand on eut apporté la lampe, il s'approcha de la tête de Geneviève. Il rabattait ses gros sourcils et la regardait attentivement dans les yeux. Il ne lui fit pas tirer la langue, mais il lui posa des questions qui avaient l'air d'être à 100 lieues du cas présent. Il passait pour original. On s'amusait de ces interrogations déconcertantes et on y répondait sans méfiance. C'est ainsi qu'au milieu de 20 autres sujets, il demanda à Geneviève si on avait l'habitude à son couvent d'apprendre aux jeunes filles à composer des vers, si on les exerçait à noter leurs impressions personnelles. Cette curiosité fit sourire la nièce et sa tante. Ce docteur Cornet, on le ferait venir rien que pour vous égayer, s'il n'était pas d'une indiscrétion. Mais en descendant l'escalier, il dit à Mademoiselle Cloque qui lui demandait « Qu'a-t-elle ? » Elle a un secret, il faut étourdir cette petite-là coûte que coûte. » Et il ajouta, après une hésitation, « À votre place, moi, je tâcherai de jeter un coup d'œil dans le pupitre de cet enfant. Je parierai qu'il y a là-dedans des pattes de mouche qui nous renseigneraient mieux qu'elle ne le fera elle-même, la petite coquine. » Mademoiselle Cloque le regarda d'un air effaré. « Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur ?»« Rien, faites donc ce que je vous dis. » « Faites donc !» Et il s'enfonça dans l'ombre de l'escalier en serrant autour de son cou un foulard blanc sur lequel il releva le col d'un vieux par-dessus. Il mit son chapeau de feutre mou, presque gras. Il était fait comme un voleur. « Quel drôle de pistolet !» pensa Mademoiselle Cloque. « On se demande où l'on va pêcher la confiance que l'on a dans ces êtres-là. » Elle remonta un moment près de Geneviève, qu'elle crut devoir tranquilliser en lui disant que le docteur ne la trouvait point malade. Elle n'osa pas l'interroger, bien que la conclusion du médecin l'inquiétât. Un secret ? Geneviève, une fille si franche, si expansive même, qui à chaque instant avait des candeurs enfantines ? Elle ne voyait qu'une hypothèse admissible à la rigueur, la persistance d'un penchant pour le jeune grenaille Moncontour. Mais comment ne s'en serait-elle jamais aperçue depuis 3 mois que cette affaire était enterrée et que Geneviève causait avec elle à cœur ouvert de toutes choses et notamment de la construction de Saint-Martin qui ramenait à chaque instant le nom du comte sur leurs lèvres. Quelle puissance de dissimulation il eût fallu supposer à la pauvre petite! Ces médecins s'imaginent toujours avoir affaire à des femmes romanesques. Sans doute, il jugeait la nièce d'après la réputation qu'avait la tante de vivre par l'imagination. Mais précisément, une des surprises de Mademoiselle Cloque était de découvrir chez Geneviève une nature très positive, très calme, très raisonnable. Elle lui avait dit à plusieurs reprises en souriant Toi, tu n'es pas de la famille. Nous n'avons jamais eu tant de bon sens. » Quant à aller fouiller dans les pupitres, il fallait que le docteur la connût bien peu pour croire qu'elle consentirait à commettre une indélicatesse de cette taille. « Ce malheureux docteur aura beau faire, » dit-elle en bordant le lit, « il restera toujours un vrai paysan du Danube. » « Il est amusant, » dit Geneviève, « il ne fait pas peur. » « Il n'est peut-être bien pas si fort après tout. Il n'a rien ordonné. Il dit qu'il faut que tu manges et que tu t'amuses. Si tu es encore faiblotte ce soir, je t'appliquerai sur les tempes une petite compresse d'électricité rouge. » Et elle laissa la jeune fille en refermant doucement la porte de cette chambre grise où la lampe à abat-jour opaque ne répandait qu'un cône de lumière sur le pied du lit, sur la petite table au pupitre et sur une chaise garnie d'effets. Au plafond, le halo sautillait, donnant l'illusion de nuages fumeux et éphémères ou dansant en sarabande. Sur l'oreiller, dans la pénombre, penchait la tête gracieuse de Geneviève et, sous le front droit que découvrait la mousse blonde, le mystère était clos. Mademoiselle Cloque passa dans sa chambre prendre l'argent du terme. Elle mit son chapeau, ses gants et descendit résolument chez Lupin. Mariette l'attrapa au passage. « Vous y allez donc tout de même, mademoiselle? Voulez-vous de moi pour vous donner un coup de main ?»« En voilà une idée. » « Oh, mademoiselle, j'ai si grand peur de cet homme-là. Faites au moins ce que je vous ai dit, sans ça il est capable de tout. Et qu'est-ce que ça coûte un compliment? Je vous le demande un peu. » « Laissez-moi donc tranquille et occupez-vous de ce qui vous regarde. Vous monterez le bouillon à mademoiselle dès qu'il sera chaud. » Le cœur lui battait cependant en ouvrant dans l'obscurité la petite porte grillagée qui fermait son jardin sous le magnolia, car il lui répugnait d'affronter l'imbécile jacobin. Par une fenêtre éclairée du rez-de-chaussée, elle aperçut coup sur coup les bonnets blancs de la mère et de la femme de Lupin. S'il était ivre, elle ne se trouverait du moins pas seule vis-à-vis de lui. Elle frappa la porte entr'ouverte. Une voix de Saint-Or répondit de l'intérieur « Entrez donc, nom de Dieu !» Et comme elle poussait la porte, la même voix ajouta « C'est la maison du peuple, chez moi, nom de Dieu. Ici, tout le monde est chez soi. » Mademoiselle Cloque eut la présence d'esprit de dire « Pas moi du moins, monsieur Lupin, car vous ne me faites pas grâce de mon loyer, que je sache. » Il y avait en face de Lupin son beau-frère le plâtrier. Celui-ci ôta sa casquette et se mit à rire. « Ah !» dit Lupin en frappant un grand coup sur la table où il était assis. « Voilà Mademoiselle Cloque, tonnerre de Dieu ! Ne manquez plus que ma bonne amie !» Ce mot fit encore rire le plâtrier. Mais la vieille fille regarda Lupin d'un air si calme, si résolu et si digne qu'il n'ajouta plus rien et fut des deux le plus mal à l'aise. Elle avait le nœud des brides de son chapeau sous le menton, irréprochable comme toujours. Ses bandeaux gris étaient bien lissés, sa figure honnête de femme n'ayant connu jamais qu'une ligne de conduite, qu'une foi, qu'un but, en imposait à tout le monde. La mère et la femme de Lupin arrivèrent en même temps de la pièce voisine. Elles dirent bonjour poliment à la locataire et lui demandèrent des nouvelles de sa nièce. « On sait donc déjà qu'elle a eu une petite indisposition ?»« C'est votre bonne qui nous a dit ça en passant. »« Ah !» À cet âge-là, dit la mère Lupin d'un air entendu, les demoiselles, c'est comme du verre. Faut y faire bien attention. Ma fille est là pour vous le dire. Si je ne l'avais pas tenue au doigt, à l'œil, elle, de son temps, c'est-il pas vrai, Victorine? Elle est si comme il faut, votre petite demoiselle, observa madame Lupin en regardant son frère. Ça serait grand dommage qu'elle ne réussisse point dans ce qu'elle veut faire. « Il n'y a rien de tel que de ne pas viser au-dessus de sa condition. Cela vous évite bien des déboires. »« Ah, dame, c'est qu'on ne commande point comme on veut à ses fantaisies. »« Faut avoir eu des filles pour savoir ce que c'est. C'est délicat, oh, oh, c'est délicat. » Tandis que les deux femmes donnaient ainsi leur inévitable avis, sans émouvoir autrement mademoiselle Cloque, qui savait par cœur les mœurs de ce petit monde, elles avaient saisi chacune un coin de leur tablier et le passé, en guise de torchon, sur la toile cirée de la table, toute maculée de ronds de vin rouge à bon marché, et qui avait déjà déposé une poussière de tartre. En même temps, elles disaient l'une et l'autre dans le nez de Lupin, Lève-toi. Lève-toi donc un peu pour dire bonjour. » Mais Lupin était assis là comme au conseil municipal. Il se carrait, s'élargissait, se faisait sur sa chaise plus pesant que nature. Il avait le teint allumé, il était rasé de frais, ce qui dessinait nettement la ligne tombante des moustaches qu'il allongeait par un emprunt sur les deux joues pour se donner, disait-il, l'air d'un tribun. Il était en gilet et sa chemise mal boutonnée et souillée de larmes de boisson violâtre laissait entrevoir la flanelle rouge. Mademoiselle Cloque tira d'une enveloppe qu'elle tenait à la main un billet de banque. Elle le déposa sur la table et laissa tomber par-dessus, en les comptant, des pièces d'or. « Je viens m'acquitter de ma petite dette. Si vous avez eu l'obligeance de me préparer ma quittance... » Lupin frappa un nouveau coup sur la table qui fit sauter les 3 louis. « Nom de Dieu, dit-il, c'est pas tout, ça. Je ne refuse pas votre argent, mais je suis un homme de cœur et qui est sensible aux sentiments. Sacré 1 000 000 000 de nom de nom. Faut-il que je vous apprenne que je suis nommé du conseil municipal ?»« Je le sais, dit Mademoiselle Cloque. Je pense que cela peut vous être utile, ainsi qu'à votre famille, et j'en suis heureuse pour elle et pour vous. Mais je me fais de ces fonctions une haute idée. Je crois qu'il y faut à la fois des principes fermes et généreux et des capacités éprouvées. J'ajouterai que la vie même de ceux qui prétendent gouverner leurs concitoyens devrait pouvoir leur être proposée en exemple. Vous me trouvez difficile, mais c'est que je suis vieille et que je sais le prix du mérite réel. J'ai vu bien des hommes élus, monsieur Lupin, aux plus hautes fonctions, même au trône de France, et je les ai vus retomber sous les huées de ceux-mêmes qui les avaient élevés. À mon âge, on n'applaudit plus qu'aux belles actions, non au succès. Autrement dit, vous vous foutez de mes électeurs comme de moi, sous le prétexte que je ne suis pas pour les calotins. Je ne dis pas cela, monsieur Lupin. Je dis seulement que je vous ferai des compliments, à vous et à vos électeurs, le jour où vous aurez montré que vous étiez digne de leur choix. L'occasion peut se présenter un jour ou l'autre. Il y a tant de bien à faire. Nom de Dieu ! Faut-il, à l'âge que vous parlez, en avoir tout de même un culot ? Vous pouvez vous vanter que vous êtes la première personne qui ose rouspéder devant moi et qui ne me tourne pas un compliment. » Il fit glisser sa chaise en arrière dans un mouvement de colère. Le plâtrier roulait sa casquette entre ses doigts. Sa mère et sa femme se penchaient de chaque côté du conseiller pour le calmer. « Mademoiselle est plus savante que nous autres, vois-tu bien ? Faut pas lui en vouloir de ce qu'elle sait parler. Faites donc pas attention, Mademoiselle Cloque, il est un peu butor, c'est l'honneur qui le rend injuste. » Il roulait un œil furieux en cherchant que dire. Il allongea le bras vers le billet et la monnaie d'or restée sur la table et les attira à lui. Il les couvrit de ses deux mains arrondies comme s'il les y chauffait. Et il sembla que la chaleur de ce petit brasier monta dissiper les bêtules de sa demi-ivresse. Il eut l'air de se raccrocher tout à coup à une idée perdue. Le plâtrier lui lançait des regards à la fois timides et brûlants. Les deux femmes d'ailleurs insistaient. « Tu oublies donc ce que tu sais bien !» « Voyons, Lupin !» Il n'abandonna point toutefois son air farouche. Il recogna sur la table. « Nom de Dieu » s'écria-t-il en regardant Mademoiselle Cloque qui attendait tranquillement sa quittance. « Mais c'est qu'elle n'a pas peur !»« Il n'y a que les méchants qui aient peur, monsieur Lupin. Il arrive souvent malheur aux honnêtes gens, c'est vrai, mais ils ne le craignent point. »« Eh bien, sacré nom, on s'aperçoit que vous êtes de la vieille garde, vous !» J'en connais plus d'un, avec du poil au menton, qui ne se tienne pas si droit sur les jambes. C'est pas du sang de navet qu'il y a dans votre famille, ça se voit, c'est bon à retenir. On en fera peut-être bien son profit, soit dit en passant. Voulez-vous toper là et qu'on soit bons amis ? Mademoiselle Cloque, étonnée d'un revirement si soudain et sans comprendre le sens énigmatique de ses paroles, dit, en acceptant simplement la quittance qu'une des femmes lui tendait, « Monsieur Lupin, je ne demande pas mieux que nous vivions en bons termes. Il n'a pas dépendu de moi que nous ne l'ayons toujours fait. » Lupin se leva en la voyant gagner la porte. « Voulez-vous la lance ?»« C'est un peu tard, dit Mademoiselle Cloque. La saison est bien avancée pour que j'arrose mes fleurs. »« Ça ne fait rien, dit Lupin, je vous la porterai moi-même. À quoi que ça sert de s'assigoter, voyons ? On n'est-il pas de braves gens ? Je vous la porterai. » « Je l'ai dit. Mademoiselle Cloque salua et sortit. « Vous ne nous laisserez pas sans nouvelles de cette chère petite demoiselle !» cria la mère Lupin sous le porche.